Xuno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Xuno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. En 2015, l'OMS estimait qu'en moyenne dans le monde, les populations disposaient de 13 médecins pour 10 000 habitants, avec d'importantes disparités. 32 médecins pour 10 000 personnes en Europe, contre 2 seulement pour 10 000 sur le continent africain. Inégalité en termes de personnel soignant, mais aussi d'infrastructures de soins, d'équipements sanitaires, d'offres de médicaments, de couverture et d'assurance médicale, comme de formation des professionnels de santé. Un état des lieux d'autant plus défavorable aux pays du Sud au regard des limites des ressources budgétaires des États, de l'enclavement de certains territoires et des déperditions liées aux problèmes de gouvernance. Face à ce constat, nombreux sont ceux aujourd'hui qui misent sur la e-santé pour pallier un certain nombre de ces carences lourdes de conséquences en termes de santé publique. L'innovation technologique, le développement de projets en phase avec les attentes locales, ces initiatives collent à la réalité sans nécessiter forcément un investissement hors de portée et s'appuient sur la couverture quasi planétaire du réseau cellulaire. Cette année encore, une conférence est organisée à l'initiative de la Fondation Pierre Fabre, une conférence internationale de l'Observatoire ici à Lavaur, dans le sud-ouest de la France, pour présenter les lauréats de ces projets qui peuvent étendre l'accès à la santé dans les pays du Sud. Conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, coup de projecteur sur ces initiatives locales, échange entre acteurs de la médecine digitale, débat, partage d'expériences, avec cette année des lauréats pour le continent asiatique en Inde, au Bangladesh, au Cambodge, pour l'Afrique, au Lesotho, au Cameroun et en Guinée. La Guinée avec autour de cette table parmi nos invités le professeur Faudé Cissé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de neurologie de l'hôpital national Ignace Dine à Conakry et vous nous présenterez dans le détail votre projet de diagnostic de l'épilepsie qui s'appelle
Le Guinea Epilepsy Project.
On en parle tout à l'heure. Le Cameroun, avec nous, Arthur Zhang. Bonjour, lauréat 2018 également, chercheur en génie biomédical et ingénieur informatique. Votre programme s'appelle
Ça s'appelle le programme Africa Cardiac Care. C'est un programme qui permet de faciliter l'accès aux examens cardiaques pour les populations en faible revenu.
On en parle dans quelques minutes. Et avec nous également, le professeur Ousmane Faye. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de dermatologie du Centre d'appui à la lutte contre la maladie, vice-doyen de la faculté de médecine de Bamako, porteur, directeur du programme Télédermalie. Et vous nous expliquerez exactement en quoi consiste ce projet qui avait été récompensé, c'était en 2016. Autour de cette table, on continue, c'est avec le professeur Cheikh Oumar Bagayoko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur général du réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, directeur du Centre de recherche de télémédecine et e-santé de Bamako. Et en 2016, d'ailleurs, vous aviez été le tout premier lauréat du prix RFI Challenge App Afrique. Et enfin, l'organisatrice de cette conférence de l'Observatoire, c'est vous, Béatrice Garrett. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre. Et merci de nous accueillir pour cette émission.
Priorité santé sur RFI.
Béatrice Garrett, on va commencer cette émission avec vous pour bien faire comprendre aux auditeurs de Priorité Santé les enjeux de ce rendez-vous, de cette conférence de la e-santé dans les pays du Sud. Bien expliquer que ces initiatives, l'application des technologies numériques au secteur de la santé, c'est véritablement quelque chose qui peut changer le quotidien de certaines populations. Ce n'est pas simplement une affaire de scientifiques et de personnes isolées dans leur laboratoire.
Pas du tout, parce que souvent d'ailleurs c'est de l'innovation technologique, mais la plupart du temps il y a de l'innovation sociale, c'est-à-dire comment finalement les populations vont s'emparer de ces outils, en particulier le téléphone portable, pour que soudainement ils puissent avoir accès à des services de santé. Donc on peut penser à la prévention, passer tous les messages pour que les gens comprennent en fait les bons comportements, mais aussi les aider à profiter et à aller là où il y a des structures de santé, par exemple des femmes enceintes pour des consultations prénatales, vacciner les enfants. On peut aider les professionnels de santé à se former, on peut permettre aux gens d'avoir des informations médicales. Enfin, c'est des tas d'applications qui concernent vraiment toutes les populations et en particulier celles qui sont vulnérables et qui n'ont pas accès aux services de santé.
Alors c'est justement important d'insister sur ce point d'entrée de jeu, professeur Cheikh Oumar Bagayoko. c'est pas parce qu'on s'appuie sur des technologies qui sont utilisées tous les jours, hein, dans la rue, qu'il s'agit pour autant d'un gadget, pas du tout. Cette télémédecine, aujourd'hui, c'est vraiment un axe de développement.
Exact, je dirais même, elle devient un pilier d'équité d'accès à la santé pour les populations les plus vulnérables, comme vient de dire Béatrice Garrett, mais aussi c'est un outil de désisolement pour les professionnels de la santé qui ont été le plus souvent formés dans les capitales et qui vont être envoyés dans les zones les plus reculées. Donc c'est un outil qui va leur permettre de rester en contact avec leurs pairs et de se former même de façon continue.
Et comment expliquer justement la pertinence particulière pour les pays du Sud? Aujourd'hui, on parle bien des observatoires du Sud, professeur Bagayoko, en particulier en Afrique subsaharienne.
La pertinence particulière pour les pays du Sud, vous l'avez dit au début, hein, nous sommes des pays qui sont confrontés à toutes sortes de défis. Insuffisance d'infrastructures, insuffisance de personnel qualifié, insuffisance des plateaux techniques. Donc, vu tous ces enjeux, particulièrement pour le pays, on trouve des fois près de 95% des spécialistes qui sont concentrés dans les capitales. Ce qui fait que les zones les plus isolées ont souvent à disposition qu'un infirmier ou une sage-femme, ou même, dans le meilleur des cas, un médecin généraliste. Comment une femme enceinte qui va arriver dans une situation d'urgence peut être mieux prise en charge par cette sage-femme? Si on arrive à mieux former cette sage-femme, à bien faire une échographie et à transmettre cette image aux spécialistes qui sont restés dans la capitale, on pourrait bien aider à la prise en charge de cette femme enceinte en évitant de faire des milliers de kilomètres qui sont souvent difficiles à faire vu l'état des routes, mais aussi qui sont coûteux en termes de dépenses.
Alors justement, du concret, hein, avec vous, professeur Faudet-Cissé, neurologue, l'épilepsie, cette pathologie dont on parle assez souvent dans notre émission Priorité Santé. Alors, comment décrire très concrètement ce projet, ce programme, je le rappelle, qui fait partie des lauréats de cette année?
L'épilepsie, c'est la maladie neurologique la plus fréquente. C'est environ 60 millions de personnes dans le monde et 80% des épileptiques vivent dans les pays en voie de développement et donc majoritairement en Afrique. Et pour prendre en charge ces patients dans notre pays, nous avions beaucoup de difficultés en termes de diagnostic. La bonne vieille clinique, comme disait le professeur Bakayoko, parfois n'est plus suffisante, il faut des examens complémentaires. Et c'est là où nous avions besoin d'un électroencéphalogramme. Et pour l'avoir, on s'est posé la question de mais comment faire pour avoir un EEG, c'est l'abrégé de l'électroencéphalographie, pour nous aider au diagnostic de l'épilepsie. Nous avons pris contact avec l'Université de Boston où il y avait le développement d'un dispositif hein, qu'on appelle le SBS2, c'est le Smartphone Brain Scanner 2, tout. Qui est un dispositif très simplifié d'électroencéphalographie avec une tablette, une têtière, un bonnet, hein, qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, ce qui permet un meilleur choix des molécules anti-épileptiques, donc de mieux soigner les patients. Mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que cette télémédecine est plus facile d'utilisation pour le personnel de santé qui fait l'EEG, mais aussi pour le patient, parce que si on voit la technique classique d'électroencéphalographie, mais il faut poser les électrodes point par point et ça prend beaucoup de temps.
Là, on peut dire que ça ressemble à un bonnet et ça s'enfile d'une traite.
D'une traite, oui, qui est fermé. Il y a des bonnets pour les enfants, il y a des bonnets de taille moyenne et de grande taille. Donc voilà, ça se ferme directement, ça se connecte avec une tablette. Et ce qu'il faut dire, c'est que le logiciel d'analyse de l'électroencéphalographie sera open source, c'est-à-dire que si la tablette se plante, ben on peut retélécharger le logiciel, on peut faire l'examen, on peut renvoyer les tracés à des collaborateurs, on va dire plus formés, sans gêne, on peut les envoyer à Boston par exemple ou en Belgique pour relecture, et ce qui permettrait un meilleur diagnostic, donc un meilleur traitement de ces patients épileptiques. Je tiens à rappeler quand même que l'épilepsie, c'est vraiment la maladie neurologique la plus fréquente et avec une surmortalité en Afrique qui est 2 à 3 fois supérieure à celle des pays occidentaux. Donc.
Et qu'on le souligne, en général, surmortalité due à la mauvaise prise en charge qui est liée à la stigmatisation.
Effectivement, la stigmatisation, effectivement. Donc ces patients sont stigmatisés, sont reclus, sont mis de côté. C'est des gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est des gens qui n'arrivent pas à manger avec les autres, c'est des gens qui parfois sont bâillonnés.
Qui finalement ne sont pas forcément considérés comme des malades, mais plus comme des personnes un peu à part et qu'on ne prend pas en charge à ce titre-là.
Oui, parfois comme des fous, comme des personnes possédées, comme des personnes dangereuses alors qu'elle n'en est rien. Et parfois, ils ont même des blessures assez graves, des gens qu'on enterre, qu'on déterre. Donc, à mon avis, cette considération archaïque de cette maladie n'est plus acceptable aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut regarder en face. Et comme disait l'OMS il y a quelques années, il faut sortir l'épilepsie de l'ombre à cause surtout de cette mauvaise prise en charge. Donc, il y a besoin hein, de moyens diagnostiques dans les zones reculées. Il faut dire que 80% des épileptiques vivent dans les zones rurales. Et ce que dit le professeur Bakayoko, toujours pour enchérir par rapport à cette difficulté d'accès aux soins, c'est qu'il n'y a que 11 pays africains sur les 52 qui ont plus de 10 neurologues. Et le ratio de neurologues, c'est de 0,3 par million d'habitants. Hein. Oui. C'est 0,3 par million d'habitants, alors qu'en Europe, c'est 48 neurologues pour 1 million d'habitants. Donc, c'est assez complexe à gérer sans ces technologies-là.
Vous le soulignez au début de votre intervention, il y a, professeur Faudé-Cissé, la question d'un outil qui est plus facile à utiliser, mais aussi simplement parce que les autres outils, les outils classiques, on peut le dire, dans de nombreux cas, ils sont inaccessibles, soit parce qu'ils sont très compliqués d'utilisation, soit parce qu'ils sont en panne également.
Oui, c'est clair. L'EEG classique, hein, si le moins cher en termes de coût, va être autour de 10 000 euros, alors que le système SBS2, le smartphone base, lorsqu'il sera commercialisé, va coûter autour de $300. Donc c'est vraiment accessible sur le plan du coût, mais aussi c'est facile, avec une vidéo de 5 minutes, on peut vous montrer comment faire un EEG. On vous envoie une vidéo et voilà, l'infirmière regarde comment ça se passe et donc ça lui permet de faire l'EEG et ça facilite nettement la qualité de la prise en charge. Et encore une fois, le point important, c'est cette surmortalité à laquelle nous ne faisons pas face à cause, bien sûr, de la mauvaise prise en charge qui va entraîner ce qu'on appelle les états de mal épileptiques. Les états de mal épileptiques sont des crises d'épilepsie qui durent au-delà de 5 minutes, donc qui entraînent la mort neuronale et parfois ce qu'on appelle le SUDEP. Le SUDEP, c'est le Sudden Unexplained Death in Epileptic Patient. Donc ce sont les morts subites qui arrive chez les patients épileptiques à cause de la durée prolongée des crises et parfois il y a des cas de suicide qui sont masqués chez nous, mais qui sont des faits avérés.
Arthur Zhang, autre lauréat pour cette année, autre lauréat 2018, programme développé dans le secteur de la cardiologie. Alors expliquez-nous à quoi ressemble votre cardiopad.
Bon, le cardiopad, c'est un dispositif médical, c'est un appareillage, donc un ensemble de composants parmi lesquels on a principalement une tablette qui est accompagnée de plusieurs autres éléments, des capteurs, des électrodes, des câbles et un panneau solaire pour pouvoir recharger la tablette. C'est ce qu'on appelle le kit cardiopad. Donc c'est un appareil qui est utilisé pour réaliser l'électrocardiogramme grâce à des électrodes qu'on va poser sur la peau, un câble qui va conduire le signal des électrodes vers la tablette où va donc se faire un traitement et une transmission du signal.
Vous êtes informaticien de formation, comment vous êtes allé vers ce secteur médical et en fait d'où vient votre projet, quelle idée au départ, Arthur Zhang?
Au départ, c'était tout simplement de la curiosité, j'étais très curieux de savoir comment je pouvais utiliser mes compétences d'élève ingénieur parce que j'étais en quatrième année à l'époque dans le domaine de la médecine. Je vais donc décider d'aller faire un stage à l'hôpital général de Yaoundé au service de cardiologie où je vais rencontrer un cardiologue qui s'appelle le professeur Samuel King et qui est l'actuel président de la Société camerounaise de cardiologie qui va donc m'initier au traitement numérique du signal cardiaque. Et donc je vais faire beaucoup de bonnes choses, développer des applications qui permettent de détecter les battements de cœur entre autres dans un signal. Et très satisfait de mon travail, il va donc me poser un problème et me dire voilà Arthur, j'ai des patients qui habitent dans des petits villages très loin de Yaoundé et qui viennent tous les jours à Yaoundé. Je le constate moi-même, puisque je suis affecté au service de cardiologie et j'ai en charge de réaliser chaque matin les examens pour les patients. Et donc, je remarque qu'il y a plusieurs personnes qui viennent des villages différents et qui sont parfois obligées de dormir pour attendre l'interprétation du cardiologue parce qu'étant donné qu'ils sont très nombreux, le cardiologue ne peut pas avoir le temps d'interpréter tous les examens le même jour. Donc, ça augmente leurs dépenses, le temps également, ça précarise la prise en charge de ces patients. Donc, c'est de cette manière que je vais me mettre à travailler sur la transmission du signal afin de pouvoir permettre à ces patients d'être examinés dans leur village sans avoir à voyager vers Yaoundé. Donc j'ai déjà réalisé mon mémoire d'ingénieur en 2010 sur ce sujet-là et après mon mémoire d'ingénieur, je vais l'approfondir dans mes recherches à l'école polytechnique et donc pouvoir intégrer l'aspect matériel et c'est comme ça que le cardiopad est né.
Très belle explication, Béatrice Garrett. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les autres lauréats de cette année 2018 qui ne sont pas avec nous autour de cette table, avec d'autres projets internationaux?
Oui, en fait, effectivement, l'objectif de l'Observatoire, c'est d'abord de faire tout un travail de fond pour repérer les initiatives qui fonctionnent. Et ensuite, effectivement, chaque année, cette conférence permet d'en sélectionner entre 6 et 10 et de les mettre en valeur pour pouvoir ensuite les soutenir pendant une année. Alors, nous essayons d'avoir aussi un panel qui montre un peu l'étendue du pouvoir, en fait, des nouvelles technologies appliquées à la santé. Donc, il y a des programmes comme ça qui sont liés à des objets connectés. Et puis, il y a aussi des programmes qui sont liés à la prévention ou à l'observance. Par exemple, nous avons donc au Cambodge opération Achat qui permet de mieux prendre en charge les patients atteints de tuberculose, sachant que par exemple le traitement est gratuit, mais souvent les gens, toujours pareil, parce qu'ils sont dans des zones éloignées, rurales, donc un problème de temps pour se déplacer, d'argent, parce qu'ils ont, ils ont pas l'argent, ils peuvent pas quitter leur travail pour partir. Et là, en fait, c'est tout un réseau connecté avec du téléphone portable, organisé avec une plateforme centrale qui permet qu'il y ait des agents communautaires qui vont chaque jour, en fait, aller délivrer les doses nécessaires pour les patients et qui vont ensuite renseigner toute une base qui permettra de suivre l'observance, enfin, de vérifier que le traitement est parfaitement pris, par exemple.
C'est très important pour éviter les résistance bactérienne au traitement.
Absolument, absolument, et limiter la contagion également. Et on a un peu un système de surveillance comme ça aussi avec Mosquite sur le paludisme dans une région éloignée de l'Inde, en fait l'Assam, où là aussi c'est à base d'agents communautaires, parce que souvent c'est quand même des dispositifs qui existent dans ces pays et qu'on peut effectivement potentialiser, c'est-à-dire rendre plus performant à cause des nouvelles technologies.
Alors on va passer tout de suite à une autre illustration concrète, hein, du concret, aujourd'hui dans cette émission. Le lauréat cru 2016, c'est vous, professeur Ousmane Faye, dermatologue au Mali, maladie de peau qui concerne beaucoup de monde, hein, même s'il n'y a pas forcément tous les spécialistes pour les prendre en charge. Justement, 1 million de personnes, un spécialiste, c'est bien ça le ratio au Mali ?
Effectivement, au début de ce projet, il y avait environ moins d'un dermatologue par million d'habitants. Et c'est justement cela qui nous a motivés à, comment on va dire, démocratiser les soins dermatologiques pour l'ensemble du pays, de façon à ce que le paysan qui se trouve à 2 jours, je dirais pas en termes de distance, je dirais à 2 ou 3 jours de Bangkok, qui puisse vraiment accéder à des soins dermatologiques de qualité.
2 ans après le prix, mais même si le programme a été initié plus tôt, vous en êtes où au niveau du bilan? Est-ce que vous avez bien évidemment des retours, mais est-ce que vous voyez ce que ça a changé pour le quotidien de ces patients de zones enclavées, de zones rurales?
Alors, le retour d'expérience, la première déjà que nous avons, c'est la faisabilité d'une telle initiative. Parce que vous savez, en Afrique, la plupart du temps, on s'est dit, avec le coupe d'électricité, avec les moindres moyens, pourrait-on mettre en place une telle initiative? Mais justement, ça nous a permis de savoir d'abord que c'est possible, avec peu de moyens, de faire accéder le maximum de populations, notamment les populations les plus reculées en milieu rural, à des soins dermatologiques, d'une part. Deuxièmement, que cette initiative-là répond à une demande de la population, parce que cette initiative que nous avons mise en place depuis 2015 continue à l'heure actuelle et les agents de santé continuent toujours à nous envoyer des malades. Et c'est pas la pathologie de base que devrait soigner tout médecin généraliste, mais c'est véritablement de la pathologie spécialisée qui demande véritablement l'apport du spécialiste. La troisième chose, c'est qu'on arrive à faire économiser le patient du séjour, des dépenses et également des soins, parce que vous savez, nos études ont montré que dans un milieu rural, la plupart du temps, les agents de santé, comme ils ne savent pas bien diagnostiquer les affections pour une pathologie qui aurait nécessité un médicament ou 2 médicaments, ils vont en prescrire 4-5 de façon à ne pas louper je vais dire la cible, ce qui fait que l'ordonnance, le coût de l'ordonnance revient assez cher aux paysans. Et comme le paysan n'a pas assez d'argent, au lieu d'aller acheter ses médicaments, il va peut-être se retourner vers la médecine traditionnelle, vers des traitements non conventionnels qui ne feront qu'aggraver son problème. Et le jour où véritablement il va se retourner pour venir à l'hôpital, venir à des soins modernes, il va se retrouver avec des complications, bien entendu, irréversibles.
Est-ce que vous rencontrez des problèmes, professeur Ousmane Faye, sur le plan technique, par exemple, au niveau de la couverture du réseau lors des transmissions et de retour d'information?
Oui, justement, je veux dire, l'un des challenges de cette initiative, ce n'est pas tant la formation des agents de santé à émettre des images fiables pour l'interprétation, mais c'est véritablement, je veux dire, l'accès au réseau de la téléphonie qui ne couvre pas l'ensemble du pays, qui fait qu'il y a certains agents de santé qui ont du mal un peu à émettre les images. Il faut qu'ils attendent certaines heures pour pouvoir envoyer ces images-là et que l'on puisse interpréter. Mais globalement, on peut dire que cette initiative, elle est vraiment positive, parce que la plupart des centres arrivent à l'utiliser et également nous arrivons à rendre service à ces patients-là.
Professeur Faudé-Cissé, même question sur des impératifs techniques, la couverture du réseau, c'est quelque chose aujourd'hui qui est satisfaisant en Guinée?
Oui, c'est quelque chose qui commence dans la capitale.
C'est pas quelque chose en tout cas qui bloque votre travail?
Non, c'est quelque chose qui commence. Ça permet surtout, comme on a dit, de faire le déploiement de ce dispositif-là. Ceci nécessite bien sûr des moyens. Il faut former les agents de première ligne. Il faut insister là-dessus parce que, encore une fois, il y a une déficience en spécialistes qui est reconnue. Donc, il faut former les agents de première ligne pour que ces agents puissent faire un dépistage correct de l'épilepsie et ensuite les référer ou en tout cas administrer des traitements qui sont possibles. Effectivement, quand je prends le cas de l'épilepsie avec du phénobarbital, il faut reconnaître que c'est un traitement qui reste encore effectif, qui marche dans 70% des cas et qui peut être administré par un agent de soins de santé primaire. Donc, avec une vidéo qu'on nous envoie, avec un EEG qu'on nous envoie, on peut faire le diagnostic et recommander 100 mg de phénobarbital. C'est un médicament qu'on prend tous les jours, une fois par jour, et voilà, qui permettrait de changer la vie de la personne. Et ça nous permettrait d'avoir une meilleure connaissance, parce que souvent les études en Afrique, en termes de pathologie, quelles qu'elles soient, ne sont pas des études communautaires, c'est vraiment des études des séries hospitalières. Donc il y a un besoin de connaître en termes de chiffres réels quel est le nombre de cas dans notre pays pour une meilleure prise en charge. Donc le déploiement chez nous, il est en cours. Je pense qu'on pourrait apprendre de l'expérience malienne qui semble plus avancée que la nôtre. Donc je pense que c'est l'occasion aussi pour nous de tendre la main pour un meilleur déploiement à l'échelle nationale de cette technologie pour encore une fois un meilleur diagnostic de ces infections.
Professeur Ousmane Faye, déjà 3 ans d'expérience, est-ce que vous aviez reçu des appuis de la part des autorités?
C'est la bonne question. Un appui politique sans doute. Mais je pense que notre appui...
La politique ne suffit pas toujours.
Bien sûr. Le plus grand appui vient véritablement de la Fondation Pierre Fabre qui a été très attentive à notre écoute et qui nous a appuyés pour la phase test. Et puis également cette phase test, la Fondation Pierre Fabre nous a octroyé un grant qui nous permet à l'heure actuelle d'étendre sur 2 ans cette initiative à l'ensemble du pays qui a été véritablement une demande des autorités sanitaires, parce que lors de la réunion de restitution des résultats le 1er juin, les ministres de la Santé, qui est encore en poste, a exprimé une demande forte à la Fondation d'étendre cette initiative à l'ensemble du pays, mais pas seulement à l'intérieur du pays, mais également autour de Bamako.
Justement,
parce que le problème de la maladie ne se situe pas uniquement à l'intérieur, mais également autour de Bamako.
Alors justement, du côté des voisins, est-ce que votre exemple a inspiré certains pays de la sous-région?
Bien entendu, parce que nous avons à l'heure actuelle 2 pays amis qui sont en train de déployer la même initiative exactement. Je cite un exemple, le Togo, qui va démarrer bientôt, et également la Mauritanie, et 2 pays qui ont la même problématique que nous, qui ont le même besoin que nous, et qui, je pense, pourront bien profiter de notre expérience.
Professeur Cheikh Oumar Bagayoko, on a bien compris, appui politique de la part des autorités et un besoin énorme de financement dans ces régions où le mot désert médical n'est pas galvaudé. Désert médical, là, c'est plus une réalité.
Oui, il faut être dans ces pays-là pour s'en rendre compte. Je pense qu'autour de la table, on est unanime. Je dirais plus que le désert médical, parce que il y a des zones complètement, lorsqu'on quitte la capitale, il y a 0 spécialiste à l'intérieur
abandonné.
Du pays. Donc, les spécialistes même, c'est trop dur. Il y a 0 généraliste à l'intérieur du pays. Et généralement, si les gens sont en poste, ils font 50% de leur temps en déplacement pour des formations dans les régions. Donc, il y a ce problème de permanence des soins, même si les gens sont en poste. Et à cela, il faut ajouter, en fait, les plateaux techniques qui sont soit inexistants, soit obsolètes. Donc, vraiment, dans notre contexte, on parle plus que de la question des déserts médicaux.
Avec justement, au niveau des spécialités, on parle de la dermatologie, on parle de la neurologie, cardiologie, c'est la même chose aussi, on peut le dire, pour l'endocrinologie, dans une certaine mesure, la gynécologie, la psychiatrie. Il y a des manques dans toutes les spécialités majeures.
Dans toutes les spécialités majeures, d'ailleurs, il y a des programmes liés aux maladies non transmissibles, par exemple, comme le programme e-diabète. Il y a des programmes qu'on a testés aussi au Mali sur la santé maternelle et infantile. C'est-à-dire, on a essayé de faire quoi? La délégation des tâches des pédiatres aux infirmières pour qu'ils puissent bien poser, en fait, les diagnostics et demander par ces outils-là, l'expertise à distance des pédiatres qui sont dans la capitale.
Messieurs, madame, on va se retrouver juste après une petite pause.
Priorité santé sur RFI.
Et nous nous retrouvons toujours pour cette émission dans le sud-ouest de la France, Priorité Santé enregistrée à Lavore, où se tenait hier la conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, à l'initiative de la Fondation Pierre Fabre, avec nos invités, cinq invités, Béatrice Garrett, directrice de la Fondation, de Deloréa 2018, le professeur Faudé-Cissé, chef de service de neurologie de l'hôpital national Ignace Dine en Guinée-Conakry, Arthur Zang, chercheur en génie biomédical au Cameroun, le professeur Ousmane Faye, lauréat 2016, avec son programme Télédermalie, chef du service de dermatologie du Centre d'appui à la lutte contre la maladie à Bamako, et avec nous aussi professeur Cheikh Oumar Bagayoko, coordinateur général du réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, directeur du Centre de recherche de télémédecine et de e-santé à Bamako. Je vais me faire pour quelques petits instants seulement l'avocate du diable, professeur Cheikh Oumar Bagayoko. Est-ce que l'on ne perd pas un petit peu en termes cliniques ce contact avec la télémédecine? Est-ce qu'il ne manque pas finalement l'essentiel, c'est-à-dire la consultation dans certains cas?
Je dirais non, il faut prendre la télémédecine ou la e-santé comme un moyen et non une finalité. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. L'usage de la télémédecine doit se passer globalement entre professionnels de la santé pour mieux prendre en charge les patients. C'est pour ça, de plus en plus, moi, je parle des délégations des tâches appuyées par la télémédecine. Il faut qu'un agent de santé soit à côté du patient pour dialoguer avec un autre agent de santé pour sa prise en charge. Sinon, ce serait toutes les dérives.
Mais on a bien compris, de toute façon, ça ne se passe absolument pas entre le patient et la machine. Il y a toujours un intermédiaire qui n'est pas forcément un médecin, mais il y a toujours un intermédiaire qui a la connaissance pour justement poursuivre ce contact humain qui est absolument indispensable dans la médecine.
Exactement. Donc le but, c'est vraiment d'appuyer les professionnels de la santé. Le but n'est pas de les remplacer. Donc il faut absolument maintenir ce contact-là.
Professeur Ousmane Faye, vous vouliez réagir à ce sujet?
Oui, je voulais juste ajouter que plus qu'un moyen, le contact, cette télémédecine permet également d'améliorer les compétences des agents de santé. Le simple contact d'échange d'informations participe également à la continuité de la formation de ces agents-là. Et là, nous l'avons bien remarqué dans notre projet Télédermalie.
Avec peut-être même, professeur Faudé-Cissé, une valorisation de leur savoir, puisque au jour le jour, finalement, ils sont aussi en situation d'apprentissage et cela appuie justement leur domaine de compétences au niveau local. Ça leur offre une autre visibilité par rapport aux personnes qui viennent les consulter.
Naturellement, ça augmente en expérience, mais aussi on pourrait aller plus loin en disant que ça permet d'anticiper. On pourrait faire des formations. Je me rappelle que quand je faisais mon DES à Dakar, à l'hôpital Fan, nous avions par semaine des cours de télémédecine avec des neurologues de l'Inde, où eux, ils devaient préparer un cas clinique et nous, on devait préparer un cas clinique, et ça permettait un échange d'expérience. Et donc, lorsque vous avez fait un diagnostic devant un agent de santé d'une pathologie dermatologique ou neurologique quelconque, la personne, a priori, sait que pour ce genre de cas, voilà à qui on doit référer. Donc, on pourrait faire en plus du diagnostic, mais aussi de la formation à distance. Parce que le vrai problème, c'est ce contact qui est facilité, cet apprentissage qui peut être mis en place de manière, bien sûr, ponctuelle et mieux organisée, mieux planifiée. Mais oui, c'est nettement la solution, à mon avis, la plus optimale aujourd'hui pour le renforcement des capacités. Parce que, in fine, la vraie question qui nous est posée en Afrique, c'est celle de la compétence. Et donc, oui, la télémédecine.
Et la question clé de la formation aussi. On va y revenir tout à l'heure. Okay. Professeur Bagayoko, justement, ça va contre certains clichés, ceux qui pensent que le numérique éloigne les hommes. Pour le cas particulier, ce qui peut être vrai dans certains pays qui ont déjà toutes les universités, tous les moyens, mais en tout cas pour les pays qui n'ont pas aujourd'hui ces moyens, ça rapproche les hommes et ça rapproche les compétences.
Exactement. Donc, je le disais au départ que c'est un outil, en fait, non seulement d'accès à la santé, mais aussi des désisolements des professionnels de la santé, parce qu'il faut pas l'oublier. Lorsqu'on a passé toute sa vie étant formé dans la capitale et qu'on vous envoie dans un village reculé, sans moyen de communication, sans contact avec ceux qui vous ont formé, donc vous comprenez que les gens ne veulent pas rester sur place. Et nos 15 dernières années d'expérience montrent que l'utilisation de ces outils permet non seulement de motiver les professionnels de la santé d'aller un peu plus loin, mais aussi de rester dans ces zones qui sont souvent isolées.
Alors, l'accès, vous vouliez encore réagir, professeur Faye?
Juste réagir parce que pour un peu l'histoire un peu de la formation du professeur Bakayoko, parce qu'au début, lorsque le professeur Bakayoko a embrassé la télémédecine, et je pense qu'il y avait beaucoup de regards un peu moqueurs qui étaient là. Comment ça se fait que des médecins puissent s'éloigner de la médecine? Et, mais je pense qu'à l'heure actuelle, notre regard a véritablement changé et c'est vraiment positif.
Avec cette évolution, ces cours qui sont dispensés au Mali, à Bamako, professeur Béatrice Garrett, une fondation comme la vôtre investit dans ce secteur, hein, qui mise donc sur cette santé digitale. On a abordé très rapidement tout à l'heure la question d'ailleurs avec quelques sourires. Est-ce que ces acteurs peuvent compter sur l'appui des pouvoirs publics dans leurs pays respectifs ?
Déjà, un appui politique, c'est vrai.
Une volonté,
c'est important. Alors bon, on sait très bien que dans les pays à ressources limitées, les ministères de la Santé sont insuffisamment dotés, qu'ils reçoivent des fonds, mais parfois ces fonds sont fléchés, donc ils ne peuvent pas eux-mêmes choisir, en fait, leur utilisation. Donc ce qui me semble important, c'est que, et c'est pour ça que la Fondation Pierre Fabre s'est investie dans la e-santé, c'est que pour nous, c'est un accélérateur d'accès aux soins. Et ce qui nous semble important aussi, c'est de faire savoir, de faire comprendre, de monter en compétence, en fait, tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire à la fois ben, les acteurs locaux, hein, qu'ils soient médecins, start-upers, ingénieurs, mais aussi les autorités publiques. Et c'est pour ça que, notamment à la conférence, nous avons invité le réseau asiatique AIN, qui est un réseau qui existe depuis 7-8 ans, qui a plus de 1000 participants, où il y a à la fois en fait des gens sur le terrain, mais également des gens dans les ministères. Et ce qui est très astucieux, c'est qu'ils utilisent des ministres quelque part convaincus pour convaincre d'autres ministres. Et ça me semble important qu'on ait, nous, qu'on participe à cette démarche de prise de conscience des autorités pour que, justement, les pionniers qui sont un peu autour de cette table, quand ils reviennent chez eux, qu'ils soient mieux écoutés, mieux pris en compte, et que leurs solutions soient intégrées aussi dans un développement global de la politique de santé du pays.
Professeur Bagayoko, est-ce qu'il y a une dimension francophone à mettre en avant ? On peut dire qu'est-ce qui marche ? Est-ce que, par exemple, certains pays francophones ne s'y sont pas mis un petit peu tard ?
Je dirais non, parce que c'est un avantage aussi, parce que le développement de cette e-santé pour se faire de façon harmonieuse a besoin d'être étudié dans une vision systémique. Et l'avantage que les pays d'Afrique francophone ont aujourd'hui, c'est que le terrain est à peu près vierge, malgré toutes ces applications qui existent déjà. Donc ça donne l'occasion justement au pouvoir politique de mettre en place un cadre stratégique pour finalement que tout ce développement puisse se faire de façon harmonieuse et cohérente. Puisque le patient va passer d'une application à l'autre, il faudrait que ces informations puissent suivre pour assurer la continuité de sa prise en charge. Donc cela doit être utilisé comme un atout. Et au niveau formation, justement, on est en train de mettre en place une initiative à la faculté de médecine de Bamako, qui est encore une fois appuyée par la Fondation Fabre, qui va faire justement en sorte que, qu'on soit professionnel de la santé, qu'on soit ingénieur, qu'on soit autorité, qu'on soit renseigné sur les enjeux de la e-santé. Donc, les gens vont être autour de la même table pour faire sortir des projets donc qui sont à la fois acceptés par les autorités et qui sont à la fois acceptés par les professionnels de la santé, et les ingénieurs informaticiens vont mieux comprendre les besoins. Donc, je pense que cet atout-là, on peut l'utiliser, on ne doit pas le voir comme une faiblesse.
Alors, on a parlé de la francophonie. Si on parle des langues locales, celles qui sont accessibles aux populations rurales, comment ça se passe au niveau de la transmission des données ? Est-ce qu'il y a, par exemple, une traduction simultanée, une interprétation par les agents de santé, ou est-ce qu'il y a aussi des transmissions d'informations médicales en langue locale, professeur Bagayoko ?
Aujourd'hui, les outils permettent une traduction complètement en langue locale. Quand on prend le téléphone portable, les messages peuvent arriver, par exemple, en langue locale. Là, nous avons expérimenté dans le domaine de la nutrition au Mali, où les relais communautaires qui n'ont jamais été à l'école utilisaient le téléphone portable pour lutter contre la malnutrition dans la région de Mopti. Donc, les outils permettent aujourd'hui cette traduction en langue locale.
C'est essentiel pour les populations enclavées.
Je pense que c'est essentiel. C'est vraiment capital parce que ça fait partie en fait de la barrière culturelle. Parce que quand on adresse à quelqu'un dans sa langue locale, on est plus compris que lorsqu'on s'adresse à lui dans une autre langue.
Votre regard sur la question, professeur Faudécissé, vous travaillez avec les États-Unis en matière d'information, de transmission des données. Est-ce que tout le monde est monté dans le train en même temps ou est-ce que certaines régions, d'après vous, accusent un certain retard ou peut-être une certaine frilosité?
Mais oui, deux tiers du pays est encore resté et même d'autres services de neurologie existants dans le pays sont en train maintenant d'emboîter le pas et de savoir même que la e-santé ça existe. Je pense que en Afrique les données sont souvent très très disparates et ça dépend du niveau de développement de la zone, ça dépend du niveau d'enrichissement de la zone et donc oui, les gens sont assez frileux. Mais encore une fois, je pense qu'on doit voir de manière très positive la e-santé parce que ça reste, à mon avis, la solution intermédiaire entre des pays à standards élevés et des pays pauvres à ressources limitées qui doivent aller, bien sûr, vers les standards internationaux. Mais entre ces deux niveaux, je pense que la solution réside là. Faire preuve de réalisme, bien sûr, et c'est assez accessible. C'est surtout ça la difficulté parce que quand vous donnez des informations assez élevé à des gens en Afrique, bah, ils s'y intéressent pas parce qu'ils comprennent pas. Donc, il faut s'adresser à eux dans leur langue, il faut s'intéresser à eux parce que c'est in fine ça. Les gens sont dans des zones très enclavées, dans des conditions difficiles et ils ont l'impression d'être abandonnés et donc, ils se tournent encore une fois vers les tradis praticiens qui sont là, qui sont présents et qui, voilà, on fait avec ce qui est disponible.
Et qui parlent à eux avec leur vocabulaire et qui sont compris, même si des fois ils disent des choses qui sont pas tout à fait correctes, il faut le reconnaître. En tout cas, c'est à la portée de tout le monde.
Quand je prends le cas de l'épilepsie, on a encore une considération hippocratique. C'est-à-dire, il y a 2000 ans en Europe, on pensait que l'épilepsie était due au diable. C'est Hippocrate qui a dit que finalement, ça n'avait rien de surnaturel, que c'était une maladie du cerveau. Donc, dans mon pays encore, aujourd'hui, une grande majorité de la population est dans le personnel sanitaire même, vous avez 25% des gens qui pensent que l'épilepsie est due au diable. Et donc, il y a une stigmatisation. Les gens ont des mauvaises informations qui font que les gens ne sont pas bien pris en charge. Donc, la e-santé nous pose deux défis. À nos autorités, le défi, par exemple, de l'électricité, parce qu'il faut recharger ces tablettes. Il faut, voilà, les gens se disent, tiens, la maladie que j'ai peut-être soignée, mais in fine, qu'est-ce que vous nous proposez? Et la seconde chose, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est la question de la formation des agents communautaires pour la prise en charge. Nous, on a eu d'autres pathologies bien complexes, comme Ebola, où si on avait un meilleur système e-santé plus élaboré, on aurait pu mieux communiquer avec les agents de santé, on aurait pu mieux prendre en charge, donc il y aurait eu moins de drames.
Délégation de compétences.
Ouais, voilà, clairement. Donc, encore une fois, c'est la bouée de sauvetage à prendre en attendant d'atteindre, on va dire, les standards internationaux, les standards optimaux. Quoi.
Professeur Ousmane Faye, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, justement, sur des informations de santé adaptées aux usagers de santé?
Bien entendu, parce que ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que nous, comme on dit, toubib, nous sommes toujours retranchés derrière notre langage
très médical, académique,
les populations ne comprennent pas. Et finalement, on se rend compte que malgré les informations que nous donnons aux patients, ils ont toujours recours à cette médecine traditionnelle parce que justement, ces gens-là trouvent les mots qu'il faut pour transmettre des messages, même si ces messages-là sont erronés. Et véritablement, il y a dans ce domaine également, il y a un travail à faire de notre part. Et là, il faudrait mettre à profit non seulement les anthropologues pour pouvoir transmettre nos messages. Et véritablement, ce serait un tout qui pourra vraiment faire bouger les lignes.
Pour justement qu'il y ait une meilleure correspondance Absolument. Entre l'information et ceux qui en ont besoin. Alors, on a passé en revue ces initiatives ponctuelles, la Guinée, le Mali, le Cameroun. Et plus globalement, l'Observatoire de la e-santé pour les pays du Sud, c'est une plateforme. Béatrice Garrett, est-ce que vous pouvez nous décrire exactement de quoi il s'agit et comment y a-t-on accès?
Alors, le travail, c'est d'essayer d'identifier vraiment ces initiatives qui apportent un vrai service médical rendu aux populations les plus vulnérables. Donc, nous avons ciblé pour notre recherche l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est et l'Inde. L'Inde est un véritable laboratoire d'idées. Ils utilisent très bien la technologie. Ils ont aussi une population qui est très défavorisée. Donc, ils ont les conditions pour avoir développé toute la e-santé. Donc, avec un travail, effectivement, à travers des appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, des enquêtes et les différents réseaux que nous sollicitons, nous étudions effectivement les différents programmes, soit des programmes pilotes, soit des programmes développés. Et ceux qui nous semblent solides et apporter un vrai intérêt sur cette thématique, effectivement, sont publiés sur une plateforme qui est accessible de façon totalement ouverte sur le site internet www.odes.io. O-D-E-2-S.io.
On mettra lien justement à la fin de l'émission pour ceux qui vont consulter sur internet.
Alors, tout ce travail-là, c'est vraiment la partie, je dirais, un peu immergée de l'iceberg. Et chaque année, nous organisons cette conférence, quelque part, pour partager, en fait, ce que nous avons appris, pour donner la parole à des experts du Nord et du Sud et pour mettre en valeur un certain nombre de ces initiatives que nous primons, donc qui sont nos lauréats. Et nous nous engageons à soutenir ces lauréats ensuite pendant un an avec un soutien à la fois financier et technique.
Alors donc, plateforme des initiatives en médecine digitale, Béatrice Garrett, est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des sujets, des problématiques, on va dire, qui mobilisent davantage que les autres ?
Ça dépend des années, mais l'année dernière, par exemple, on avait énormément d'initiatives autour de la santé maternelle et infantile. Bon, qui est effectivement un des grands challenges, en fait, de ces pays, qui est aussi un des objectifs du développement durable. Je crois que cette année, on était plus justement sur l'accès à des spécialités, sur les objets connectés, qui ont une manière aussi d'accéder à la technologie de façon frugale. Et moi, je trouve que ce qui est merveilleux dans la e-santé, c'est aussi cet aspect innovation. Innovation qui vient du Sud, qui correspond à la fois à des besoins, mais également à l'environnement, en fait, de ces pays. Et je pense que c'est comme ce qu'on a vu sur, finalement, la banque, là, avec le mobile money. Tout d'un coup, il y a eu le fameux saut de grenouille, la leapfrog, qui fait que, des populations qui n'étaient pas bancarisées du tout, tout d'un coup, elles ont eu accès à un compte grâce au téléphone portable. Et je pense que, symétriquement, dans la santé, on va faire aussi des bons.
Et finalement, sans intermédiaire, voilà, sans phase intermédiaire, exactement. On passe pas par les processus habituels.
Et ces pays vont inventer en fait des nouveaux systèmes de santé publique.
Enfin, je disais processus habituel, on va dire plutôt processus des pays développés. On peut inventer d'autres modèles, c'est bien la preuve. 20 projets par exemple sur la thématique de la santé cardiaque, d'après l'Observatoire. C'est pas énorme face aux défis véritablement de cette santé cardiaque, notamment sur le continent africain avec tous les problèmes d'hypertension et de maladies cardiaques. Arthur Zang, malgré tout, vous, c'est le secteur qui vous a motivé, qui vous a inspiré. Il y a une véritable demande, justement, par rapport à tout ce qui est cardiaque. Qu'est-ce que vous en pensez de voir ailleurs, comme ça, naître aussi d'autres projets ? Est-ce que vous êtes intéressé, précisément, aux projets des autres ?
Bien sûr, et je trouve que c'est totalement normal, parce que actuellement en Afrique, je crois que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité devant le paludisme et le sida. Au Cameroun, par exemple, nous sommes environ à 20% de la population qui souffre d'hypertension artérielle, 9% qui souffrent du diabète, ce qui constitue des facteurs importants de maladies cardiovasculaires. Et au total, dans le monde, c'est environ 17 millions de personnes qui meurent chaque année, et 85% de ces morts se présentent dans les pays à faible revenu. Donc, c'est extrêmement important, et je crois que ce n'est que normal que les pays africains puissent s'y intéresser. Ce qui est un peu dommage, c'est que la réaction des pouvoirs publics et souvent également des bailleurs de fonds ne sont pas à la hauteur du mal. Parce qu'en réalité, en Afrique, il y a plusieurs priorités. Et très souvent, les priorités de la santé se font en fonction des priorités des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que l'OMS va décider de financer d'abord le sida, ensuite le paludisme, ensuite la tuberculose, en oubliant les maladies qui sont très silencieuses, comme les maladies du cœur.
Et même donc, si ces priorités sont peut-être en train de changer, on va le voir au mois de septembre, il y aura une conférence dans le cadre de l'ONU, justement, peut-être pour redéfinir ces axes.
On l'espère, mais pour le moment, on ne ressent pas ça sur le terrain. Et donc, comme c'est sur ces axes-là que l'accent est mis par les bailleurs de fonds, ce qui se passe, c'est que les gouvernements vont monter des projets uniquement dans ces secteurs, parce qu'il y aura beaucoup de fonds qui vont venir par là, et tous les autres secteurs seront totalement abandonnés. C'est-à-dire que vous allez retrouver des antirétroviraux très loin dans les villages, on va les distribuer, mais vous allez rarement trouver un tensiomètre en bon état, un appareil de ECG en bon état dans un hôpital de village, ce qui est inacceptable en réalité. Aujourd'hui, encore dans des pays comme le Cameroun, il y a des moments effectivement où lorsqu'on explique par une mort, on peut accuser, par exemple, des phénomènes paranormaux, la sorcellerie, parce que c'est vrai que si vous rencontrez un jeune le samedi soir et que lundi matin on vous dit il est mort d'AVC, si vous n'avez pas cette culture, cette petite connaissance, vous pourrez interpréter les choses autrement. Donc je crois qu'il est vraiment temps en Afrique de redéfinir nos priorités et d'axer la recherche et les financements en fonction de ces priorités.
Professeur Faudécy, c'est justement des initiatives qui reflètent les attentes, mais qui reflètent aussi les manquements, même si, par exemple, en neurologie, il n'y a pas énormément de propositions, malgré les manques véritables sur le terrain.
Oui, c'est très évident et c'est très choquant. Je rejoins Monsieur Zhang par rapport à cette
priorisation
des choses, mais il faut mettre un accent sur les maladies non transmissibles. C'est vrai qu'en Afrique, pendant longtemps, on a parlé des maladies infectieuses et persistantes et tout ça, mais les programmes ont quand même partiellement réussi à faire infléchir dans le bon sens ces pathologies. Et aujourd'hui, nous assistons à une flambée des maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus du myocarde, qui sont la première cause de mortalité dans le monde. C'est pour ça que dans les stades de foot ici, vous avez des électrocardiogrammes, des trucs pour choquer et tout ça. Et les accidents vasculaires cérébraux qui constituent la première cause de mortalité dans l'hôpital où je travaille. Et comme disait Monsieur Zhang, par exemple, un ECG, ça doit être dans tous les services. Dans tous les services, quand vous arrivez, vous devez avoir un électrocardiogramme. Donc, ce sont des dispositifs qui doivent être disponibilisés sur l'étendue de nos territoires parce que c'est des choses qui peuvent être évitées. Si on attend quelqu'un à un infarctus du myocarde ou qu'il ait un AVC, le coût de la prise en charge n'est pas assumable dans notre pays. Donc, nous devons nous positionner compte tenu de la limitation des ressources au niveau de la prévention primaire pour éviter des conséquences qui sont souvent dévastatrices pour les patients. Et donc, oui, encore une fois, il y a des manquements, mais il faut une synchronisation, bien sûr, entre ce qui est développé en termes de santé, mais aussi avec les pouvoirs publics, parce que parfois les moyens peuvent être disponibles. Et comme il dit, il faut une matrice de décision bien hiérarchisée, connaître où sont les problèmes actuels et comment allouer les fonds, et que surtout nos ministères se donnent les moyens de pouvoir allouer les fonds aux problèmes les plus urgents.
Béatrice Garrett, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de souci de votre part d'essayer, est-ce que vous en avez les moyens, d'équilibrer justement l'offre de projet? Est-ce que vous avez un rôle à jouer pour justement solliciter, motiver les équipes pour aller vers certaines spécialités où c'est impossible?
Je pense que nous, on soutient effectivement dans la limite de nos possibilités. L'observatoire, justement, c'est une vitrine et c'est un accélérateur pour que d'autres s'y intéressent et pour que des réseaux se constituent. Moi, je crois beaucoup dans les réseaux. Je pense qu'il faut mettre les gens en contact, chacun dans sa partie. Donc les initiateurs, les politiques, pourquoi pas des entreprises, d'autres fondations, les bailleurs publics et privés. Je pense qu'il faut une mobilisation générale et notre action, elle doit participer à cette prise en compte de tout ce potentiel en fait que les technologies peuvent apporter à l'accès aux soins. Et à ce moment-là, je pense qu'on la fondation fait sa mission. Sa mission, c'est essayer d'améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Et là, on est vraiment dans notre mission.
Au cœur du projet, je vais vous laisser le mot de la fin, professeur Cheikh Oumar Bagayoko. Certains projets peuvent désormais s'appuyer sur une formation. On a parlé de la formation sur le terrain par ce biais numérique. Mais ce qui est très important, c'est justement ces cours dispensés désormais à l'Université de Bamako. Premier diplôme interuniversitaire sur la e-santé. Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment attendu?
Nous y pensons depuis longtemps, mais il fallait juste attendre le bon moment pour le faire. Donc, grâce à l'appui de la Fondation Favre, ça devient une réalité maintenant. Ce serait un cours vraiment avec une initiative africaine, non seulement à l'Université de Bamako, mais avec les universités Cheikh Anta Diop et de Cocody d'Abidjan. Donc, en ce moment, on pourrait entretenir nos responsables politiques sur les enjeux de la e-santé. Parce que si la santé est une priorité, il faut qu'ils comprennent que le seul moyen viable aujourd'hui d'atteindre cette priorité, c'est la e-santé. Il est illusoire de penser qu'on peut avoir des spécialistes demain et les envoyer partout à l'intérieur de nos pays.
Le message est passé. Merci à tous les cinq d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci pour votre accueil ici à Lavore, près de Toulouse, siège de la Fondation Pierre Fabre qui organisait donc hier cette conférence de l'Observatoire dans les pays du Sud. Merci à vous Béatrice Garrett, directrice générale de cette fondation. Professeur Cheikh Oumar Bagayoko, coordinateur général du réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, directeur du centre de recherche de télémédecine et e-santé de Bamako. Professeur Faudécy, chef de service de neurologie de l'hôpital national Ignace Dine en Guinée-Conakry. Je rappelle donc lauréat 2018, tout comme vous Arthur Zhang, chercheur en génie biomédical et ingénieur informatique. Et à vous, professeur Ousmane Faye, chef du service de dermatologie du centre d'appui à la lutte contre la maladie, directeur du programme Télédermalie.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Assetou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Richard Rifono, ici à Lavore. Demain, dans Priorité Santé, vous retrouverez un reportage signé Igor Strauss, consacré à la chirurgie au Togo. Et vous pouvez bien sûr retrouver notre émission en podcast sur notre application Pure Radio, e-radio, et notre site internet rfi.fr, rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.